Bulle d'histoire. Hein ? Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bande dessinée.
Bonjour Patrick Gomer, vous êtes historien de la bande dessinée, un historien bien connu des amateurs. Vous êtes notamment un des rédacteurs du Larousse de la bande dessinée, si je ne m'abuse.
Oui, disons que je l'ai effectivement écrit, entre autres, sur Pilote, René Goscinny, etc. Voilà. Et donc Albert Uderzo, forcément.
Voilà, on parle de Goscinny et Uderzo. Vous avez eu la chance de travailler longtemps sur ces sujets-là et aussi de rencontrer Albert Uderzo.
Qui était une crème d'homme, vraiment une crème d'homme. Il se trouvait que j'ai eu énormément de chance de faire un livre notamment sur Tibet, le dessinateur de Ricochet, de Chibille, et qui se trouvait être un des plus grands complices, on ne sait pas, hein, mais un des plus grands complices d'Albert. Quoi. Ils n'ont pas travaillé ensemble, mais ils étaient copains depuis plusieurs décennies. Quoi.
Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'où vient Albert Uderzo ?
Alors, Albert Uderzo, ce qui est intéressant pour un auteur qui va révolutionner la bande dessinée française, en fait, est d'origine italienne. Il est né près de Reims, hein, 5 avril 1927 précisément. Donc, son papa était luthier dans une famille très modeste. D'ailleurs, Albert, tout petit, s'appelait Alberto. Il est devenu Albert qu'au bout de 3-4 ans, quand la famille, en plus, a été naturalisée. Et donc, toute cette famille modeste, à un moment, s'est installée à rue de Montreuil, à Paris. Papa d'Albert aurait bien aimé que son fils reprenne prenne la même voie. Albert avait un grand frère qu'il aimait beaucoup et qu'il considérait presque comme un papa bis, qui s'appelait Bruno, et qui l'a poussé, qui l'a défendu en disant oui, mais le petit, entre guillemets, veut faire du dessin. Et évidemment, il était très doué dès le départ.
Alors, j'imagine que son père a dû résister un peu, mais il a fini par céder quand on voit la carrière qu'a eu Albert Uderzo. Comment Albert commence sa carrière de dessinateur? Par quoi il commence? Dans quel cadre il travaille?
Alors en fait, au départ, il a tout juste 13 ans. Hein. En fait, il va commencer à travailler un petit peu comme lettreur, retoucheur photo. Il va surtout rencontrer à deux pas de chez lui un des grands noms de la bande dessinée française, qui s'appelle Calvo, qui est notamment l'auteur Edmond-François Calvo, donc l'auteur entre autres de La Bête est mort. Va lui donner effectivement quelques conseils. Il faut savoir aussi qu'Albert a été passionné dès le départ par une des grandes bandes dessinées qui commençait à apparaître en France. C'est une bande dessinée américaine qui était évidemment tout simplement le personnage de Mickey, dessiné à l'époque par Floyd Godfredson. Et il découvre ça notamment dans Le Petit Parisien, dans Le Journal de Mickey qui commence à apparaître en 1934, etc. Petit à petit, il va commencer un petit peu à travailler dans un journal qui s'appelait OK, qui était un journal très modeste et qui ne payait pas beaucoup. Et surtout, en fait, il va venir, avant la bande dessinée même si à OK, il en faisait quelques-unes, mais il va surtout devenir reporter dessinateur à France Dimanche, quoi, qui n'était pas du tout le France Dimanche un peu caricatural qu'on verra par la suite. À l'époque, c'était un vrai journal de reportage, quoi, hein. Et donc, on lui confiait, un fait divers en disant, tel voleur s'est introduit, est-ce que tu peux nous faire des dessins? À tel point qu'une fois, il a même été convoqué par la police en lui disant, mais d'où est-ce que vous tirez un petit peu toutes ces infos? Ces infos que personne n'a vu. Il a dit, de mon crayon, de mon papier. Voilà. Et donc en fait, voilà, il travaille un petit peu à France Dimanche, un petit peu pour François. Il va faire beaucoup de reportages. Là, évidemment, son père est assez étonné parce que dès le départ, il est plutôt bien payé, hein, pour toutes ces documentations. Il va notamment à un moment aussi dans le domaine sportif, toujours pour France Dimanche, faire un reportage, une sorte de reportage jeu sur le Tour de France. Et il se trouve que ce reportage sur le Tour de France va attirer l'attention d'un monsieur qui s'appelait Yvan Chéron, qui à l'époque avait une agence de presse et d'être passage à Paris. Et donc, il était associé avec son beau-frère, précisément, vous saurez tout, qui s'appelait Georges Froidfontaine, qui avait également sa propre agence. Et la double agence qui s'appelait International Press ou World Press, tant qu'à faire, c'était le côté à la fois américain, juste après-guerre, et surtout, bon, le côté un petit peu grandiloquent.
Oui, oui.
Et il se trouve que donc, Yvan Chéron va contacter Albert, va lui dire, est-ce que vous voulez travailler pour nous? Et là, il va commencer un petit peu à faire divers travaux avec un scénariste qui s'appelle Jean-Michel Charrier.
Mais là, donc, il part à Bruxelles, parce que cette agence est en Belgique.
Alors, cette agence, effectivement, là, on est vraiment au seuil des années 50, hein, voire 1950-51. Effectivement, il part à Bruxelles. Là, il raconte que c'est une ambiance un petit peu de dingue. Il y avait le dessinateur Hubinon qui faisait Bogdani, il y avait le scénariste Jean-Michel Charrier, il y avait un dessinateur qui s'appelait Mita qui fera la patrouille des castors et tout. Tout ça est une ambiance un petit peu à la fois d'un travail gigantesque. On n'oublie pas qu'à l'époque, on est relativement mal payé, donc il faut travailler beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est évidemment y compris la nuit. Donc c'est une atmosphère à la fois très festive, parce qu'ils ont une vingtaine d'années, mais également des gros bosseurs. À tel point que effectivement Uderzo se dit, ouais, c'est bien, mais je préfère quand même ma petite rue Montreuil pour continuer à bosser. Donc il va évidemment rentrer assez vite sur Paris. Il va commencer un petit peu à travailler toujours pour cette agence, cette double agence de presse. Et puis un jour, on frappe à sa porte et on voit arriver un bonhomme. Parfois on dit un petit bonhomme, mais enfin c'était en l'occurrence un grand bonhomme si on peut dire. C'était évidemment René Goscinny, qui venait à l'époque non pas comme scénariste, non pas comme dessinateur, n'oublions pas qu'il a été également dessinateur, mais tout simplement comme coursier, récupérer des planches pour l'agence.
Alors comment, on va sauter un peu dans le temps, on va faire une petite... aller plus loin, que comment leur collaboration va commencer, parce qu'évidemment on connaît Astérix, même si le succès a mis un tout petit peu de temps, mais pas très longtemps à s'installer, comment ça a commencé et quel était un peu le point, comment s'entendaient-ils?
Tout à fait, vous avez entièrement raison. En fait, ils ont commencé tous les deux de manière très modeste dans un journal qui s'appelle Les Bonnes Soirées, qui était un journal féminin, avec une rubrique sur le savoir-vivre. Autant dire que ça les nourrissait un peu, mais c'était pas vraiment ce qu'ils avaient envie de faire. Bon, ils ont fait deux ou trois également séries communes, je pense à Luc Junior, Benjamin, etc. Et puis, ils ont été frappés à la porte, puisque à l'époque, Dupuis n'était pas trop prenant, n'était pas trop partant plutôt pour les publier. Ils sont allés à la concurrence, si on peut dire, aux éditions du Lombard, et là ils ont travaillé ensemble sur une très bonne série qui aurait pu avoir le succès d'Astérix. Elle ne l'a pas eu, mais elle reste dans le cœur de beaucoup de lecteurs, qui est la série Oum Papa, Papa le Pau Rouge, etc., avec tous les gars. Et il y a déjà ce espèce d'alchimie entre les deux, à la fois le scénariste René Goscinny, qui s'est aperçu que le dessin c'était pas forcément son fort, et puis Uderzo, qui lui les histoires ok, mais il préfère les dessiner. Et donc c'est à la fois une association professionnelle et une association totalement amicale, ce qui est d'autant plus assez étonnant parce qu'ils ont vraiment deux parcours totalement différents. Et rappelons que René Goscinny est né à Paris d'une famille juive, enfin dans une famille juive, qui est parti assez vite avant-guerre, heureusement pour eux, en Argentine, qu'il a vécu une partie de quelques années aux États-Unis et qu'ils sont rentrés en fait en Europe et au début, ce fameux début des années 50. En fait, ils ont le malheur de vouloir fonder une sorte d'association de dessinateurs, puisque je vous ai déjà expliqué qu'ils étaient effectivement très 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 mal payés. Donc ils font une sorte de, je dirais syndicat, on a parlé syndicat, c'est plutôt d'une charte d'auteur, etc. Troisfontaine, qui à l'époque voit ça d'un très 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 mauvais œil, licencie du jour au lendemain René Goscinny. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une vraie complicité entre à la fois Uderzo et ses deux principaux scénaristes, que sont René Goscinny et Jean-Michel Charrier, et puisque tout le monde part et fonde avec d'autres personnes une double agence de presse, là encore, mais à Paris, qui s'appelle Edipress Edifrance. Et là, ils vont lancer plusieurs journaux de manière très modeste, parce que évidemment, ils sont un peu sur la liste noire des éditeurs. Et puis petit à petit, je vais rencontrer un homme qui est absolument fondamental dans cette histoire, qui s'appelle François Cloteau, qui est un ancien publicitaire de L'Oréal Montsavon, qui a l'idée, à l'époque associé avec Radio Luxembourg, de lancer le journal pilote. Mais avant Astérix, en fait, le cahier des charges, si on peut dire, c'était de faire une bande dessinée autour de la culture française, au sens large, vraiment au sens large. Il imagine au départ Uderzo et Goscinny, une série qui tournerait autour de la littérature française, et notamment le roman de Renard. Ils font une planche, pas de bol, entre-temps, ils rencontrent un dessinateur qui leur dit « Votre idée est pas mal, mais elle a déjà été exploitée par plusieurs dessinateurs, donc il faudrait peut-être trouver autre chose. Mm-hmm. » Et c'est devenu l'histoire des Gaulois, on connaît la suite.
Le succès arrive bon, quand même assez vite, même si c'est pas immédiat. On connaît le génie de René Goscinny à la fois pour raconter des histoires, mais pour créer des personnages, faire des jeux de mots, avoir des dialogues absolument géniaux qui restent encore dans les mémoires. Comment le dessin d'Uderzo, qui est lui aussi un dessin très fouillé, très précis, un dessin très virtuose, comment les deux univers s'accrochent et finissent par se marier parfaitement comme ça?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Albert Uderzo est un des rares auteurs qui soit à la fois à l'aise dans le domaine réaliste et dans le domaine humoristique. Et à tel point que d'ailleurs, je vous ai déjà effectivement expliqué les influences de Jean Demitier, etc. C'est les premiers travaux, lorsqu'il les présentait, on leur disait « Ah oui, mais vous avez un style trop américain », ce qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, mais bon, en l'occurrence, c'était un petit peu le reproche qu'on lui faisait. Pour Goscinny, c'était « Ah, vous avez un humour trop intellectuel », et pour cause, il avait effectivement côtoyé toute la bande de Mad Magazine aux États-Unis. Et il se trouve que les deux faisaient quelque chose d'un petit peu différent. N'oublions pas que, pour ceux, j'en fais partie, hein, qui ont pu découvrir les premiers épisodes au fur et à mesure en temps réel, si on peut dire, on a toute une référence à l'actualité tenante, hein. Je pense, je sais pas, Astérix et les Normands, il y a tout le phénomène yéyé. Je parlais du sport tout à l'heure avec le Tour de France. Bon, bah, chez les Bretons, c'est le rugby, etc. Il y a, à la fois, c'est pas une bande dessinée forcément politique, mais qui est à la fois dans son temps. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une caricature de la bande dessinée gauloise et tout. Non, c'est une bande dessinée où il y a des Gaulois, mais où on parle du temps présent. Et c'est ce mélange des deux qui, effectivement, était peut-être, disons, à double lecture, voire parfois à double ou triple lecture, à savoir accessible au lecteur, à l'enfant, qui voit effectivement des bagarres de Romains qui se font casser la figure par les Gaulois, et autrement, effectivement, toute cette référence un peu intellectuelle, en tout cas un peu dans l'air du temps, qui va effectivement devenir ce qu'on va appeler à partir de 64-65 le fameux phénomène d'Astérix.
Alors, autre chose qui est caractéristique d'Albert Uderzo, vous l'avez dit, c'est sa faculté de passer du réaliste à l'humour. Donc Uderzo, il dessine Oompa Oompa, qui est une série absolument délicieuse, il n'y a pas d'autre mot, Astérix, mais il va dessiner aussi des choses très très contemporaines, avec les histoires de pilotes.
Notamment de Tanguy la Verdure,
absolument,
voilà,
ouais.
Les fameux chevaliers du ciel. Mais il se trouve que, là vous faites bien de le dire, parce qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que pilote, au départ, parmi les bandes dessinées vedettes, et je dirais même que avant même Astérix, c'était les bandes dessinées un petit peu d'aventure, un peu réaliste. Alors, il y avait bien sûr le côté un peu pirate avec Barbe Rouge, Démons des Caraïbes, et surtout les aventures de Michel Tanguy, dessinées par avec Ernest La Verdure, dessinées par bien sûr Uderzo, sur un scénario de Jean-Michel Charrier, dont on sait la passion et quasi amour, quoi, hein, pour toute la vie. C'est lui notamment l'auteur des 47 de la série Bug Dany dans Spiron. Et donc, effectivement, Uderzo va dessiner avec un réalisme absolument saisissant quand on voit par rapport à ce qu'il peut faire ailleurs, même dans Astérix, même s'il y a des décors, etc. On s'aperçoit qu'il est capable vraiment de tout faire. Et ça, vient aussi de son école, entre guillemets, France Dimanche, etc. L'héritage, à part évidemment un Conrad aujourd'hui, hein, il n'y a pas beaucoup d'héritiers d'Albert Uderzo. Je parle d'un point de vue graphique.
Oui, hein. Oui. Parce que ça, c'est ma dernière question. Quand Uderzo est mort il y a quelques semaines, quelques jours, il y a beaucoup de dessinateurs qui ont dit que Uderzo était un peu celui qui leur avait donné envie de faire de la bande dessinée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des enfants ou des petits-enfants, en tout cas des descendants d'Albert Uderzo?
Il y en a, bien sûr, il y en a. Et il y a surtout des auteurs qui apprécient beaucoup, non pas forcément le style, mais je dirais un petit peu l'univers du Derzo. Il faut en parler avec un dessinateur comme Régis Loisel, par exemple, l'auteur de La Quête d'Oiseau du Temps. Ou alors un scénariste comme Arleston, Christophe Arleston, avec sa série Lampfeust. Et là, il me racontait encore pas si longtemps, quelques semaines avant la disparition d'Albert, que un de ses plus beaux souvenirs, ça a été, je vous ai évoqué Tibet il y a en début de conversation, et que Tibet lui avait présenté Albert Uderzo, et que un de ses plus grands bonheurs, ça a été effectivement lui qui était un petit peu fanboy, qui était quand même dans le métier avec une série Lampfeust qui est loin d'être négligeable, c'est un des best-sellers, et bien avait eu l'honneur, je cite, de dîner une fois avec Uderzo et de passer 2 heures. Et c'était ça, c'était quelqu'un qui n'avait absolument pas renié ses racines populaires, et qui était, malgré le succès, malgré tout le côté un peu évidemment fortune, etc. Au-delà de ça, on efface tout ça et on rappelle que c'est un homme qui était d'une générosité, d'une gentillesse, d'une humanité, et qui était resté quasi le même que le petit gosse qui regardait les premiers strips de Mickey quand il était gamin, quoi.
Eh bien Patrick, je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec nous et pour parler d'Albert Uderzo. C'était passionnant, comme à chaque fois qu'on vous entend parler de bande dessinée. Merci beaucoup et à très bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.